confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies.
Alors, du 6 au 9 juin prochain, là, ça va être les élections du Parlement européen. Et si la tendance se maintient, dit M. Frédéric Mérand, qui est professeur directeur du département de sciences politiques de l'Université de Montréal, bien, on aura un Parlement européen qui penche nettement à droite. Il est avec nous en studio. Bonjour, M. Mérand.
Bonjour, M. Martineau.
Alors, vous avez écrit, c'est ça, sur votre blog, un texte fort intéressant, « Une Europe le plus conservatrice se dessine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi le gouvernement soudainement, le gouvernement européen, le Parlement européen pencherait plus à droite.
Bon, d'abord, il faut mettre les choses en perspective. Le Parlement européen, c'est un Parlement issu d'un suffrage proportionnel. Donc, il y a beaucoup de partis qui sont représentés et il n'y a aucun parti qui n'a jamais eu la majorité des sièges. Mais c'est vrai qu'on s'attend dans cette élection-ci à ce que les partis de droite et de droite radicale, conservatrice, nationaliste aient plus de sièges que dans le Parlement précédent. C'est compliqué parce que, évidemment, dans les élections européennes, il y a 27 États membres et, d'une certaine manière, chaque élection est une élection nationale pour élire des députés européens. La réalité en France est différente de la réalité en Pologne, de la réalité en Espagne ou en Italie. Mais partout, on observe quand même des tendances. Il y en a deux en particulier qui expliquent le succès probable de la droite. C'est un ressac anti-écologiste, donc contre plusieurs des mesures qui ont été adoptées dans les dernières années en faveur de l'action climatique, et aussi
l'immigration,
qui est un enjeu transversal dans presque tous les pays
européens.
Tout à
fait, parce qu'on le voit là, un peu partout, là, on le voit aux États-Unis, on le voit au Canada aussi, là, avec le gouvernement conservateur qui est en train de monter dans les sondages. Il y a une montée de la droite un peu partout, puis c'est vraiment, là, ça se joue beaucoup autour de l'immigration. Et en Europe, entre autres, on dit que on a ouvert trop gros, là, de façon importante, les vannes de l'immigration. Et là, il y a certains peuples qui disent on est envahi, il y en a trop, on n'arrive pas à accueillir tous ces gens-là, tout ça. Ce qui explique un peu un retour de la droite. Là.
Mais le paradoxe, c'est que c'est aussi vrai dans des pays qui n'ont pas du tout d'immigration. Donc, il y a des pays comme la Hongrie, par exemple, où l'immigration est vraiment minuscule. Et pourtant, le parti de droite fait campagne contre l'immigration. Tous ces partis de droite-là, ils sont souvent en désaccord sur plein de choses. Hein. Par exemple, sur la guerre en Ukraine, ils sont en désaccord. Les relations avec les États-Unis, ils sont en désaccord. Sur les droits LGBT, ils sont en désaccord. Mais le point sur lequel ils sont tous et toutes d'accord, c'est effectivement un discours hostile à l'immigration. Et ce qui est aussi intéressant...
Mais aussi la migration massive.
C'est-à-dire, non, il y a un discours qui est quand même... ça dépend, là, mais qui est quand même hostile à l'immigration souvent... tout court. C'est beaucoup les demandeurs d'asile qui sont en question ici, c'est-à-dire que la plupart des pays européens n'ont pas des politiques d'immigration économique comme au Canada. Donc, quand les gens pensent à l'immigration, ils pensent beaucoup aux demandeurs d'asile qui, par exemple, traversent la Méditerranée sur des rafios. Là. C'est ça qui fait partie un peu du discours. Puis, il n'y a pas seulement des partis de la droite radicale qui en ont fait leur cheval de bataille. Ça, c'est un peu leur sujet traditionnel, mais la droite normal, traditionnel, modéré, aussi de plus en plus.
C'est ça, parce qu'il y a des droites comme il y a des gauches aussi. Là. Ouais. Il y a des droites qui sont seulement des droites économiques et tout ça, mais il y a des droites plus radicales. Vous parlez de la Hongrie, là. C'est vraiment là, ça. On peut parler d'extrême droite avec la Hongrie. Là. Donc, ils ne partagent pas. Ils sont tous de droite, mais ils ne partagent pas nécessairement un programme commun.
Oui, puis on observe même des partis maintenant de gauche qui reprennent ce discours-là, notamment dans le nord de l'Europe. C'est ce que j'appelle dans le texte... Le social-nativisme, c'est l'idée selon laquelle il faut défendre les politiques sociales, les programmes sociaux, mais en les réservant aux citoyens et donc en excluant les immigrants de l'accès, par exemple, au logement social.
Ben justement, on voit au Canada, il y a une crise du logement, puis c'est certain que si on accueille trop d'immigrants par rapport à notre capacité d'accueil, là, notre filet social va percer là, parce qu'il n'était pas, il n'a pas été conçu en fonction d'une arrivée aussi grande d'immigrants. Il y a peut-être des gens qui se posent cette question-là. Là.
Alors, ça, c'est effectivement le discours là, qui met beaucoup l'accent en Europe comme en Amérique du Nord sur la question du logement parce qu'il y a une crise du logement dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes européennes également. Il faut quand même mettre les choses en perspective. Quand on parle d'une crise de la migration en Europe, on parle d'environ 1 million de personnes sur une population de 450 millions d'habitants. Donc, en fait, les chiffres en nombre absolu sont très faible, mais leur mise en image, si vous voulez, leur médiatisation est très, très forte.
Mais en Europe, on le voit, là, que ça soit en France, que ça soit en Angleterre, en Italie aussi, là, ils se disent débordés par l'arrivée des gens, là, puis ils ont une crainte. Est-ce que vous comprenez cette crainte-là de dire on a peur de perdre un peu notre identité?
Ben, c'est-à-dire que quand on essaie d'expliquer en sciences politiques les causes du vote ou les facteurs qui expliquent le vote de la droite radicale, effectivement, il y a deux grandes familles de facteurs. Il y en a une qui est plutôt économique, qui met l'accent sur la stagnation économique, sur l'accroissement des inégalités, qui expliquerait pourquoi des gens sont attirés vers un vote, disons, anti-système, contre les élites traditionnelles qui est souvent situé dans la droite radicale. Mais il y a effectivement un autre facteur qu'on appelle le facteur culturel ou le backlash culturel, donc d'une partie importante de la population qui sent son identité menacée par les grands changements démographiques.
Et qu'est-ce que ça donnerait concrètement un Parlement européen campé à droite? Quelles décisions ce Parlement prendrait qui sont différentes des décisions que le Parlement actuel prend?
On en voit déjà plusieurs tendances. Premièrement, sur les questions écologistes, l'Union européenne a vraiment été à l'avant-garde de l'action climatique dans les 5 et 10 dernières années. Elle a adopté un pacte vert qui est le plus ambitieux au monde. Et là, on doit s'attendre à ce que les ambitions soient très clairement diminuées par un Parlement qui va être plus à droite, dans lequel les Verts, aussi le parti écologiste, va être plus faible. Donc ça, c'est une première chose qu'on voit venir. Sur la question de la migration également, il faut s'attendre à ce que l'Union européenne continue à resserrer les conditions d'arrivée. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, par exemple, c'est que l'Union européenne, de plus en plus, veut signer des accords avec les pays voisins pour que ces pays-là retiennent les migrants chez eux. Et puis, il y a les questions aussi de défense qui vont prendre, des questions militaires, qui vont prendre probablement plus de place qu'elles ne l'ont fait dans le passé. Puis ça, c'est la guerre en Ukraine. Et puis, dernière chose aussi, c'est que, et là, c'est pas seulement la droite, mais c'est également la gauche, on sent une hostilité croissante, par exemple, au libre-échange. Et ça, c'est notamment l'accord économique et commercial global, comme le Canada, qui, en France, a connu des difficultés. Mais on s'attend pas à ce qu'il y ait d'autres grands accords de libre-échange au niveau européen dans les prochaines années.
Est-ce que ça va être aussi un Parlement moins centralisateur, c'est-à-dire qu'il va redonner certains pouvoirs aux membres de l'Union européenne, parce que c'est aussi les gens, il y a des gens dans certains pays qui disent, ben, on a perdu un peu de notre souveraineté, on veut soudainement aller chercher davantage de pouvoir et que l'Union européenne soit moins présente, là, et nous dise pas quoi faire.
Mais ça, c'est probablement l'évolution la plus remarquable des dernières années. Il y a moins de 10 ans, les partis de la droite radicale étaient des partis qui étaient favorables à la sortie de leur pays de l'Union européenne. Oui. Ils voulaient détruire l'Union européenne comme le Royaume-Uni l'a fait en sortant de l'Union européenne. Donc, par exemple, Marine Le Pen, il y a 10 ans, en France, elle était pour la sortie de l'euro, pour la sortie de l'Union européenne, pour ce qu'on appelait le Frexit. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La plupart des partis de la droite radicale se sont réconciliés avec l'Union européenne. Le meilleur exemple, c'est Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, qui vient de la droite néo-fasciste, mais qui est maintenant pro-européenne. Mais ils sont favorables à ce qu'ils appellent une Europe des nations, c'est-à-dire une Europe qui est plus décentralisée, davantage axée sur les valeurs traditionnelles et sur la protection des frontières de l'Union européenne et donc des États membres de l'Union européenne.
C'est ça qui est étonnant, parce que moi, je pensais que l'idée de l'Union européenne était une idée qui était de gauche et que les gens de droite, au contraire, sont pour le nationalisme, donc ils veulent pas s'associer à l'Union européenne. Et là, vous dites que c'est là le gros changement. Là.
Absolument. C'est pour ça que je parle d'une Europe plus conservatrice que celle qu'on avait connue il y a 20 ans, mais ça veut pas dire une Europe qui se délite ou qui s'autodétruit non plus.
Est-ce que c'est une réponse à peut-être que la gauche est allée trop dans un extrême et là, soudainement, vous savez, on passe d'un extrême à l'autre et...
Je suis professeur de sciences politiques, donc je ne porterai pas de jugement sur qui est allé trop loin, mais c'est sûr que après 2019...
Mais vous semblez inquiet dans votre texte. Là,
non, je ne suis pas inquiet. Non. Je ne suis pas de nature inquiète. Non, mais ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu un moment particulier, je pense, autour de 2019, puis la crise de la COVID y a contribué, où il y avait un engouement pour les causes progressistes et notamment la question climatique. Et là, on observe effectivement une espèce de retour du balancier. Une des raisons très, très claires, c'est le fait que la lutte au changement climatique, elle implique des coûts qui sont supportés évidemment par la population. Il faut faire des sacrifices et donc, on a vu les agriculteurs aux Pays-Bas, on a vu les camionneurs, les automobilistes en France, si vous devez changer votre thermopompe, par exemple, en Allemagne. Donc, ce sont tous ces gens qui sont portés davantage vers des partis de droite qui ont pris finalement le cheval de l'anti-écologie pour les convaincre de voter pour eux.
En tout cas, c'est du 6 au 9 juin, les élections. D'ailleurs, c'est assez symbolique, hein, que les élections commencent le 6 juin, la date de la libération de l'Europe.
Vraiment, c'est là, pas, ouais, je pense que c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait volontaire, mais parce que la fête de l'Europe, c'est le 9 mai, qui est vraiment la fête, la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
OK. Bien, donc, un texte à lire, une Europe plus conservatrice se dessine. C'est sur le blog du CORIM. Merci beaucoup, M. Frédéric Mérand, professeur, directeur du département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Moi, je rêverais d'un débat entre vous et Mathieu Bock-Côté, parce que je pense que vous avez des visions un peu différentes sur l'Europe, mais ça serait intéressant.
Il a déjà été notre étudiant, je crois.
Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mérand.